Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Ça va bien ?
Très bien.
Bon, bah merci d'avoir pris rendez-vous. Voilà, sur avec Histoire au bout du fil. Vous connaissez un petit peu le dispositif, peut-être,
oui.
Déjà ?
Oui. Oui, on a expérimenté une fois.
Ah, super, super, super. Donc, vous connaissez bien. Vous avez expérimenté avec un chanteur, un conteur, une chanteuse,
oui,
un lecteur.
Une chanteuse. Qu'on connaissait, okay. Qu'on n'avait pas eu depuis longtemps.
Ah, bah, super.
Ça faisait
très bien.
Plaisir. On a passé un bon moment.
Ah, bah, super. Moi, je fais partie des comédiens lecteurs, en fait, voilà, de l'équipe. Donc, vous n'aurez pas droit à une chanson ce soir, mais à un texte lu.
Ça change,
voilà, c'est ça, exactement. Et je vous ai prévu un... Voilà, comme on est sur la thématique de la peur, on est sur un rendez-vous un tout petit peu particulier, puisqu'on sait qu'il y a des oreilles qui nous écoutent en même temps, mais ça reste un rendez-vous entre nous. Je vous ai prévu un texte voilà, sur la peur qui est assez long. Souvent, on prévoit des programmes de 20 minutes avec plusieurs textes dedans. Mais là, c'est un texte auquel je tiens beaucoup et je me suis dit, bah, tant pis, il est long, je vais en faire qu'un. Voilà. Pour vous, ça sera un seul texte et ça sera une immersion dans une histoire. Ça vous convient ?
Très bien, avec plaisir.
Super. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ?
Oui.
Super. Et vous êtes bien installé ?
Oui.
Ok. Eh ben on va partir alors. On va partir dans ce texte de Jean-Philippe Blondel. C'est une nouvelle et ça s'appelle « Le pain et le chocolat ». C'est parti.
Merci.
Sur le tableau noir est écrit 15 décembre 1972. Dehors, les nuages gris s'amoncellent. J'espère la neige. J'ai 8 ans. Je suis en CE2. Je suis assis au deuxième rang, sur la gauche, près des fenêtres. C'est le début de l'après-midi. Monsieur Leguin nous a donné 15 minutes pour réviser la fable de la fontaine, que nous devons réciter ensuite sur l'estrade en mettant le ton. C'est important de mettre le ton, a dit Monsieur Leguin. C'est comme ça que l'auditoire peut comprendre le sens de la fable, même si c'est un peu dur en vocabulaire. La fable, c'est le chêne et le roseau. C'est compliqué. Alors on récite tous à voix basse, sauf Michel Josse, parce qu'il ne fait jamais rien. Nous sommes 24 dans la classe. 24 garçons. Aux informations, ils disent que les classes mixtes, c'est bien. Mais chez nous, il y a une école des filles et une école des garçons séparées par l'école maternelle. Ma mère travaille à l'école maternelle. C'est la maîtresse des moyens. Le chêne un jour dit au roseau « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. » Je sais ce que c'est qu'un roitelet, parce qu'il y en a un dans le livre de bébé que je préférais et que ma mère raconte souvent à ses élèves, Mishka l'ours. Le roitelet de Mishka est farceur. Il se cache dans les empreintes de pas que Mishka fait dans la neige. Peut-être qu'il va neiger. Ce serait bien qu'il neige. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. La porte s'ouvre en grand et claque contre le mur. Même Monsieur Leguin sursaute. Et puis il dit « Monsieur Garlin » et il se courbe un tout petit peu. Nous sommes tous paralysés. Monsieur Garlin, c'est le nouveau directeur de l'école. L'ancien, Monsieur Lallemand, qui portait toujours une blouse grise, est parti en retraite l'année dernière. Il n'était pas agréable, mais ça allait quand même. La seule chose qui le mettait vraiment en colère, c'était les chewing-gums, parce que ce sont des trucs d'Américains et que lui, il était pour De Gaulle. Il a été remplacé par Monsieur Garlin. Monsieur Garlin a 40 ans, il est petit et musclé, il a les yeux bleus et pas beaucoup de cheveux. Quand il a été nommé, ma mère a dit « Eh ben, il va remettre un peu d'ordre là-dedans. » Parce qu'il paraît que Monsieur Lallemand, sur la fin, il était trop laxiste. Trop « olé olé, c'est la foire là-dedans. » La première fois qu'il a crié dans la cour, Monsieur Garlin, on s'est tous arrêtés. On n'avait jamais entendu quelqu'un crier aussi fort. Il a le CP, Monsieur Garlin. Il y en a dans la classe qui ont des frangins ou des copains au CP, et ils en font dans leur culotte d'aller en cours. Mais les parents disent que c'est bien parce que ça roule et que ça file droit. et que c'est comme ça qu'on apprend à lire. Moi, je ne me souviens pas comment j'ai appris à lire. C'est dommage d'oublier des choses comme ça. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, Vigo, Blondel, Larbeau, Josse, Gauthier, Devoix. Il n'a même pas dit bonjour. Même pas à Monsieur Leguin. Faut le dire qu'il a dû le voir avant en rapport au bulletin. Il a dans les mains le cahier rouge, celui où se trouvent nos notes du trimestre, notre place et l'appréciation du maître à l'encre violette. Je tremble un peu, mais je me dis que j'ai rien à craindre parce que je suis deuxième. Je suis toujours deuxième ou premier, ça dépend si Frédéric Vigo est en forme ou pas. De toute façon, il faut que je sois premier ou deuxième. J'ai pas le choix parce que autrement à la maison, c'est la catastrophe. Un coup, mon frère a été septième et mon père ne lui a pas adressé la parole de presque tout le trimestre jusqu'à ce qu'il remonte. Il disait à ma mère « Tu diras à ton fils que… » Heureusement, maintenant mon frère, il est au collège, il n'y a plus de classement. Tout le monde s'est mis debout quand le directeur est entré. Monsieur Leguin fait un signe de la tête. Son cou est un peu rouge. Nous quittons tous les six la classe. Nous regardons nos pieds. Nous ne posons pas de questions. On sait bien que poser des questions, c'est pas une bonne idée. Nous suivons Garlin dans son bureau. C'est une pièce isolée, tout au bout du couloir, grande, aérée. Les fenêtres sont hautes. On peut voir la cime des arbres de la cour et des morceaux du ciel neigeux. Garlin nous prend un à un par le bras et nous place. Je me retrouve adossé à une grande armoire à 4 ou 5 mètres du bureau. Je suis au milieu d'une ligne. À ma gauche, il y a Frédéric Vigo. À ma droite, c'est Pierre Larbeau. 1, 2, 3. Les trois premiers de la classe dans l'ordre. Les trois autres sont face à nous, debout devant le bureau. On se regarde. On entendrait une mouche voler s'il y avait des mouches. C'est Laurent Gauthier, l'avant-dernier de la classe, qui est en face de moi. Il tremble un peu. Je serai lui, je tremblerai aussi. Il a la bouche fermée et il serre les dents. Nous restons un long moment comme ça. Je sens de la sueur sur mon front, pourtant c'est l'hiver. Je me demande si j'ai de la fièvre. J'aimerais bien avoir de la fièvre. Je rentrerai à la maison et puis tout le monde s'occuperait de moi. Garlin nous observe. Il s'est planté à côté de l'horloge, à mi-chemin entre Frédéric Vigo et Michel Josse. Il sourit. C'est un drôle de sourire. J'entends Laurent Gauthier qui avale sa salive. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui avale sa salive. Quand Garlin se met à parler, Laurent Gauthier sursaute. Moi aussi. Pourtant, il ne parle pas fort. Pas du tout. Au contraire, il a une voix presque douce. Il raconte une histoire. Il parle de quand il était petit. Il dit que parfois il avait de la chance parce que pour son 4 heures, il avait du pain et du chocolat. Dominique Devoix plisse le front parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Laurent Gauthier continue de trembler. Michel Josse, c'est impossible de savoir ce qu'il pense. Il fixe le mur d'en face au-dessus de la tête de Frédéric Vigo. Michel Josse, on ne sait jamais ce qu'il a vraiment dans le crâne. Garlin marque une pause. Je connais l'expression « marque une pause » parce qu'il faut en marquer des pauses pour réciter les fables de La Fontaine. Je me demande si Jean de La Fontaine, 1621-1695, a écrit une fable qui s'appelle « Le pain et le chocolat ». Je ne me demande pas pourquoi je pense à des trucs aussi bêtes. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. C'est à cause de Laurent Gauthier aussi. S'il arrêtait de trembler, ça irait mieux. Il m'énerve, c'est vrai, il m'énerve. Je lui donnerais bien une claque pour qu'il arrête de trembler. Et vous savez ce que je faisais avec mon pain et mon chocolat, hein, vous savez? Nous secouons tous la tête énergiquement. Nous voulons que Garlin comprenne bien qu'on l'écoute avec attention et qu'on est d'accord avec lui, du début à la fin. Il rigole doucement, Garlin. Il glousse sans ouvrir la bouche. Et puis il dit « Je mangeais le pain avant, parce que c'est moins bon. » Il traverse la pièce, se place exactement en face de là où il se trouvait, entre Dominique Devoix et Pierre Larbeau. Il ouvre le carnet rouge de Dominique Devoix. Il lit les notes et les appréciations à haute voix. « Ne fais aucun effort, ne travaille pas, passe son temps à s'amuser. Il hoche la tête une fois, deux, trois fois, se retourne et frappe. La gifle fait un bruit sec. Dominique Devoy se plie en deux. Les larmes sont venues instinctivement lui noyer les yeux. Il n'a pas le temps de les essuyer. La deuxième gifle le cueille tandis qu'il essaie de reprendre ses esprits. Celle-là fait encore plus de bruit. Et les mots, avec une régularité de mitraillette, froid, détaché. Tu vas te décider à travailler, crétin? Ou alors c'est peut-être que tu n'as rien dans la caboche, idiot des îles, hein? Tu vois ce qui arrive avec le père Garlin quand on a des mauvaises notes, alors? Alors, hein? Tu vas avoir des bonnes notes, hein? Tu vas travailler, hein? Il a pris l'oreille gauche. Elle est toute petite dans sa grande main. Elle est toute rouge. Elle ressemble à une rose rouge tellement elle est rouge. J'ai peur qu'il tire tellement qu'il l'arrache. Mais pour l'instant, elle plie. Elle plie. Elle plie, mais ne rompt pas. Mes muscles se détendent un tout petit peu. Les mots m'ont fait du bien. Mais j'ai toujours le souffle court, les yeux mouillés, les lèvres qui se tordent. Je le sens. Je sens aussi que c'est pas comme ça qu'il faut être. Il faut sûrement être plus dur, pas bouger. Surtout ne pas bouger d'un pouce. Mais comment on fait? Comment on fait? Il y a Dominique Devoy qui est par terre et qui chiale toutes les larmes de son corps. Et Garlin qui lui postillonne dessus. Alors comment on fait pour supporter? Il faut penser à autre chose. C'est un mauvais moment à passer. Demain, il fera jour. Le chêne, un jour, dit au roseau. À nouveau, un filet d'air. Pourtant, la fenêtre n'est pas ouverte. C'est le chêne et le roseau. Ça me fait du bien, le chêne et le roseau. Je vois Garlin qui cesse de gesticuler et qui s'avance vers Pierre Larbeau et qui demande « Ça va, Larbeau? Vous n'allez pas me faire un malaise, hein ?»« Faut être fort, Larbeau. Faut se forger le caractère. Sinon, ça sert à rien d'être bon à l'école. Il faut de l'instruction, mais il faut aussi du courage. » Et ça, on ne vous l'apprend pas en classe. Le courage, c'est Garlin qui vous l'enseigne. Vous en verrez des plus sévères dans la vie. Le service militaire, la guerre. D'accord? D'accord, Larbeau? Larbeau fait oui avec la tête. Larbeau est tout pâle. Larbeau ne dit rien. Alors que d'habitude, Larbeau est très bavard. Laurent Gauthier en face de moi. Il a arrêté de trembler. Il sait ce qui l'attend. Il me fixe. J'ai l'impression de plonger dans ses yeux. J'ai 8 ans, mais je sais déjà que je n'oublierai jamais le regard de Laurent Gauthier. Je sais qu'il guidera ma vie. Soudain, je vois le dos de Garlin, et Laurent Gauthier disparaît. Cette fois-ci, je n'entends plus les sons aussi forts. C'est comme si j'étais dans du coton. Je me concentre sur le beige du mur du bureau. Je récite mentalement, en mettant bien le ton dans ma tête et en serrant les dents. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Quand Laurent Gauthier se relève, il a les cheveux en désordre et il saigne du nez. Garlin lui donne un mouchoir sans dire un mot. Je regarde Laurent Gauthier dans les yeux, mais dans ses yeux, il n'y a plus rien. C'est ce rien que je ne pardonnerai jamais à Garlin. Garlin qui s'approche de moi en souriant, et qui me tient par le menton. « C'est bien, Blondel, c'est bien. Je n'en attendais pas moins de vous. » Et d'un seul coup, je suis de son côté. Je suis le salaud qui ne dit mot consent. J'ai envie de vomir sur lui, là, maintenant. Mais il est déjà plus loin. Il fait face à Michel Josse. Michel Josse, c'est autre chose. Michel Josse, il a déjà redoublé 2 fois. Michel Josse, quand il ne prend pas des roustes à l'école, il en prend des plus sévères par son père ou par ses frères. Michel Josse, il habite une maison délabrée en bordure de la voie ferrée. Les Josse, on les appelle des Romano. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Michel Josse, il a des muscles. Michel Josse, dans la cour, il fait la loi. Il a déjà cassé le nez d'un CM2. Garlin sourit. Un large sourire. Il effleure la grande règle jaune qui pend au mur. Il est songeur. Il dit « En fait, je mangeais les 2/3 de mon pain, puis le chocolat. Puis je finissais par un morceau de pain pour enrober mon plaisir. » Et il nous tend nos bulletins, à Frédéric Vigo, à Pierre Larbeau et à moi. Et avec un air très solennel, il nous félicite pour nos résultats et notre comportement exemplaire. Il nous donne à chacun 4 images. Et vous savez qu'au bout de 12 images, vous pourrez avoir un poisson rouge. Il tend aussi leur bulletin à Dominique Devoy et à Laurent Gauthier, sans leur jeter un coup d'œil. Et il dit « Allez !» Nous nous retrouvons dans le couloir. Des bruits de combat. Sourds. un corps projeté contre le mur. Garlin sort la tête par la porte de son bureau. Nous sommes toujours là, immobiles. Il est en sueur. Il hurle « Allez !» Et nous nous mettons en marche. Je me mets à courir jusqu'aux toilettes sous le préau et là je vomis. Je vomis comme je n'ai jamais vomi. Je vomis comme je ne vomirai jamais plus. Quand je ressors des toilettes, ils sont là, tous les quatre, ils m'attendent. Je comprends que maintenant nous sommes liés, coûte que coûte, vaille que vaille. Quand je ressors des toilettes, l'enfance me nargue de l'autre côté de la cour. Je n'ai pas eu le temps de la vivre. Sur le chemin de la classe, Frédéric Vigo me demande comment j'ai fait pour ne pas réagir. Je murmure, c'est la fontaine. Il s'arrête, il dit, quoi ? J'explique. L'important, c'est faire comme si on n'était pas là. C'est se concentrer sur quelque chose. Je me suis récité le chêne et le roseau. C'était comme une prière. Frédéric Vigo hoche la tête. Il dit qu'il essaiera. J'ai un ok. Je réponds, il va quand même pas recommencer ça tous les trimestres. Mais c'est moi que je tente de rassurer. Dominique Devoix murmure que ça marche quand on fait que regarder la fontaine, mais pas quand on est sous les coups. Je hausse les épaules. Je réponds que je sais pas. Peut-être que si on s'y met tous ensemble dans notre tête, on sait au moins qu'on est tous liés. Avant d'entrer dans la classe, Laurent Gauthier dit que Garlin n'a pas le droit de faire ça et qu'il va le rapporter à ses parents. Dominique Devoix répond que ça va le mettre en fureur, Garlin, et qu'après ça sera pire. Laurent Gauthier répond « Tant pis, je le ferai quand même ». Il n'a rien dit. Personne n'a rien dit. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi personne n'a rien dit ? Ni Monsieur Leguin, ni ma mère, quand j'ai voulu lui raconter et que je lui expliquais que le directeur nous avait fait venir dans son bureau et qu'il avait tapé les mauvais. Elle a tiqué, mais elle a répondu qu'il devait l'avoir cherché. « Et toi, il t'a tapé ?»« Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Que c'était bien. » »« Ah, tu vois ?»« Ah, tu vois. » Tous les adultes dans le même panier. Tous les enfants aussi. Je suis le seul à avoir abordé le sujet avec mes parents. Les autres n'ont même pas essayé. Dans la France des années 70, c'était peine perdue. Dans la France des années 70, les enfants avaient toujours tort. Nous avons formé un groupe de cinq. Michel Josse ne nous a pas rejoints. Michel Josse a quitté l'école peu après. Nous ne l'avons jamais revu. Un groupe de cinq, comme le club du même nom. Et puis bientôt de 11, puis de presque 20, quand les CM1 et les CM2 ont eu droit aussi à la morale du pain et du chocolat. Garlin ne descendait pas en dessous des CE2, trop petits, trop de problèmes. Il se contentait de les convoquer dans son bureau et de les regarder en silence, longtemps, très longtemps. Certains ont pissé dans leurs culottes, vraiment. Nous avons fait des réunions dans le parc en haut de la rue. Nous avons décidé de le buter un jour, le père Garlin. Nous avions une devise, « Je plie et ne romps pas ». Et un code, quand nous nous croisions en dehors de l'école, dans le supermarché Mammouth ou sur les plages du lac, nous formions un cercle avec le pouce et l'index et nous le placions devant notre œil gauche, comme un œilleton de caméra. Nous nous reconnaissions. Nous avons décidé aussi de ne pas bouleverser le classement, d'être toujours les mêmes trois premiers et les mêmes trois derniers. Rodolphe Doubet avait remplacé Michel Josse chez les CE2. Inutile que les autres subissent ça. Pour nous, c'était trop tard. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était plier le dos et attendre que l'orage passe. Même quand Devoix a fait des progrès, il s'est arrangé pour rester dans le tiercé de queue. Quant à nous, les trois premiers, les autres n'ont pas essayé de nous détrôner. Le jeu n'en valait pas la chandelle. 6 fois. 3 trimestres de CE2, 3 trimestres de CM1. Des journées à attendre la porte qui s'ouvre et les noms qui claquent comme un fouet. 6 fois à plonger dans les yeux de Laurent Gauthier, retrouver la peur mais aussi la vengeance et les vers qui se frayent un chemin et nous emmènent vers un autre monde. Un monde où les tortues gagnent sur les lièvres. Un monde où les roseaux sont plus forts que les chênes. Un monde moral, enfin. Quand les coups s'abattaient, Je regardais les lèvres de mes camarades. Je pouvais presque les voir bouger. Vous avez, jusqu'ici, contre les coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Six tortures. Jusqu'au jour où un nouvel instituteur est arrivé au CM2. Il avait 25 ans, une barbe et une deux chevaux. Quand Garlin a ouvert la porte et fait résonner les noms, il a simplement dit non. Parce que parfois c'est ce qu'il suffit de faire. Garlin est devenu rouge. Il l'a convoqué, lui, dans son bureau. Nous avons entendu les cris. Mais les CM2 n'ont pas été invités à partager la fable du pain et du chocolat, ni cette fois-là, ni une autre. Les CE2 et les CM1, si. Le rituel a pris totalement fin l'année suivante. L'école est devenue mixte. Apparemment, certaines cérémonies ne sont amusantes que lorsqu'elles sont exclusivement masculines. Nous sommes allés au collège. Nous n'avons pas oublié. Nous avions planifié notre revanche, au détail près. Lorsque nous aurions 18 ans, le chloroforme, la voiture lancée sur une route se jetant dans un ravin, aucune empreinte, aucun suspect, nous mangions notre pain blanc, nous attendions le chocolat. Il n'est jamais venu. J'étais en seconde quand Garlin est mort d'une crise cardiaque, seul, dans son bureau. Personne n'était venu le secourir. La pièce était très bien isolée. En septembre dernier, ma fille est entrée au CE2. Celle de Laurent Gauthier aussi. Je ne l'avais pas vue depuis près de 15 ans. Il est devenu un artisan respecté, un chef d'entreprise qui emploie près de 30 personnes. Sa fille changeait d'école parce que Laurent et sa femme venaient de déménager et d'acheter une maison plus grande. Le soir du premier jour, comme tous les soirs des premiers jours, les parents étaient anxieux. Laurent Gauthier s'est assis à côté de moi sur un banc dans la cour de l'école. Nous tournions notre visage vers le soleil d'automne. C'est lui qui a rompu le silence. Tu sais que j'y pense toujours. Je n'ai pas eu besoin de dessin. Parfois, je me réveille la nuit et je suis en nage. C'est toujours la même chose. Je sais. C'est pareil pour toi? Pareil. Tu fais quoi dans la vie? Prof. C'est bien. Nos filles sont sorties l'une après l'autre. Elles avaient l'air contentes. Laurent Gauthier m'a regardé et il a formé un rond avec son index et son pouce. Il l'a placé devant son œil. Lorsqu'il est passé à côté de moi, j'ai murmuré « Je plie et ne romps pas ». Il a relevé la tête. La douleur dans ses yeux. J'aurais voulu l'embrasser. C'est pour ça que j'écris. Parce que parfois, les fables éloignent la douleur. Parce que je ne veux plus plier seulement par peur de rompre. Je plie et ne romps pas. Le chêne et le roseau. Voilà, voilà. La nouvelle de Jean-Philippe Blondel. Ça va? Ah, je crois que j'ai peut-être perdu Isabelle. Je l'ai entendu tousser. Je ne sais pas si peut-être que la communication a été coupée. Alors, voilà, c'était une nouvelle donc de Jean-Philippe Blondel. C'est extrait d'un recueil collectif qui a été publié chez Gallimard. Ça s'appelle Des nouvelles de La Fontaine. Voilà, des nouvelles avec un collectif d'auteurs, dont ce texte de Jean-Philippe Blondel. C'est un auteur qui a écrit beaucoup de nouvelles et beaucoup de romans, et qui continue à être prof d'anglais, et qui continue à écrire tout en étant enseignant. Et ce récit était un récit assez autobiographique. Voilà. Je ne sais pas si Isabelle est toujours dans les parages. Bah oui, je crois que je vais la récupérer.
Oui, ça a juste coupé à l'instant. Je ne sais pas d'accord. Si j'ai mis trop près le combiné, pardon.
Il n'y a pas de mal. Bon, vous avez entendu la fin de l'histoire quand même?
Oui, c'était juste... juste à l'instant même. Hein,
d'accord.
C'était terminé.
Okay.
bon, super. Histoire très bouleversante.
Oui, bah oui, moi, c'est, voilà, la peur, moi, ça m'a fait penser à ce texte, en fait. Je trouve que c'est des terreurs qui, voilà, qu'on garde toute la vie, en fait.
Oui, là, c'est effrayant, un comportement
oui.
comme ça.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Par contre, moi, j'ai connu aussi ce système de personnes, de directrices qui venaient aussi donner les résultats et les notes. Et déjà, je trouvais ça...
violent.
Enfin, je sais pas si à l'époque, on réagissait déjà comme ça, mais il n'y avait pas la violence, hein, par contre.
Ouais.
C'était juste donner les... Mais voilà, c'est trop violent. Là.
C'est violent. Alors ça fait, voilà, il parle de sa peur. Après, ce qui me plaît dans ce texte, c'est la manière qu'il trouve
oui.
de combattre cette peur et de la combattre ensemble, en fait, de s'échapper. Voilà. Ben, merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir apporté cette attention là. Et puis. Mais je vais pas rester trop longtemps puisque je sais que ça enchaîne derrière avec Aline qui va reprendre un rendez-vous téléphonique. Mais je vais vous souhaiter une bonne soirée.
Mais merci pour ce texte. L'auteur et le livre.
Alors l'auteur c'est Jean-Philippe Blondel. Ça s'appelle Le pain et le chocolat et c'est extrait du recueil des Nouvelles de La Fontaine. C'est un recueil collectif qui a été publié chez Gallimard.
D'accord.
Voilà,
c'est oui, et puis le fait de relier le texte littéraire et celui qu'il a écrit autour de,
voilà.
de ce qui s'est passé.
Complètement,
c'est,
exactement.
C'est très fort et très bien.
Et c'est assez autobiographique.
Et merci pour cette belle lecture.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Merci beaucoup aussi.
Au
Bonne
revoir.
Soirée. Merci.